Alors, pour évoquer ce milieu dans lequel Sauvageot donne sa collection, c'est le moment de la plus grande intérêt pour les armes qui va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle, puisque le directeur du Louvre, le comte de Nieuwkerk, est-il lui-même un grand collectionneur d'armes, et je le mentionne parce que sa collection, en fait, a été entièrement achetée par Sir Richard Wallace, et elle est à Londres aujourd'hui. Donc la collection de Londres est en fait faite à Paris dans les mêmes conditions que celle de notre Sauvageot, disons, ou d'autres collectionneurs, et comme une espèce de chose prélevée de ce milieu parisien à cause de l'histoire de cette... De la collection Wallace, mais que vous voyez ici, alors qu'elle était encore chez le comte de Nieuwkerk. Voilà, ça c'est juste comme en passant, puisque Nieuwkerk était directeur général des musées impériaux, donc il avait un logement au Louvre, et on voit dans cette vue de son appartement, qui est une vue un peu de fantaisie, j'imagine, enfin je l'espère en tout cas. Vous reconnaissez le casque d'or de Charles IX là, qui est par terre sur le tapis. Donc, cette espèce de confusion hein, entre la sphère publique et la sphère privée chez ces grands serviteurs de l'État. Le dernier collectionneur que j'évoquerai, plus juste par cette image, c'est le baron Salomon de Rothschild. Donc là, vous voyez, c'est un profil absolument entièrement différent, quelqu'un qui a évidemment beaucoup d'argent, qui est un personnage assez qui meurt très jeune en fait, et on voit très bien qu'il ne sait pas trop quoi faire de sa vie et que sa famille ne sait pas trop quoi faire de lui, donc on finit par lui faire épouser une cousine allemande, enfin comme toujours chez les Rothschild, qui épouse des Rothschild, donc la baronne, enfin ce qui sera la baronne Adèle de Rothschild. Et il meurt quelques années après son mariage en ayant collectionné frénétiquement, mais collectionné, plutôt dépensé énormément d'argent en très très peu de temps pour acheter un peu tout et n'importe quoi. C'est un collectionneur assez brouillon. Mais il avait quand même une ambition du côté des armes. En tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait certains marchands d'armes, dont Juste, qui était aussi un restaurateur, qui lui avait mis un peu le grappin dessus et qui lui vendait énormément de choses. Je vous montrerai tout à l'heure des choses où il s'est fait, un peu posséder. Voilà un exemple simplement de ces armes de la Renaissance qu'on appréciait particulièrement au XVIe siècle, au XIXe siècle, puisqu'elles permettaient aussi de comprendre toute cette culture, enfin presque la civilisation de la Renaissance. C'était finalement le but de ces collectionneurs, c'était de comprendre les choses dans leur globalité, de comprendre ensemble les usages, comme l'évolution des styles, etc. Et j'aurais pu le dire de Sauvageot d'ailleurs, on retrouve encore dans certains objets de Sauvageot des petits papiers pliés qu'il avait mis fourrés dans ces objets en disant dans le dictionnaire de Furetière, on indique que cet objet, ou alors dans tel passage d'un roman médiéval, on mentionne. Voilà, donc cette idée de faire le lien entre la culture matérielle, disons, et les sources est déjà présent chez ces collectionneurs. Et cette arbalète à jalet, en fait, jalet, c'est galet, ça veut dire comme un petit projectile. Et la corde qui a été mise dans la collection n'est pas pertinente, puisque normalement, c'est comme une fronde, en fait. C'est une espèce de petite poche qui permet de mettre ce caillou. Et c'est une poche qui a une espèce d'anneau en corde. Et c'est une chose qui se tend à la main. Vous voyez, donc c'est assez mou. Et en fait, c'est une arme pour les dames, pour assommer, plus ou tuer des petits oiseaux ou des grenouilles. Enfin, donc, vous voyez le genre de chasse un petit peu dérisoire que c'est, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de tension. Donc, il faut juste le tendre à la main. On l'accroche sur cette petite partie métallique et il y a cette petite gâchette donc, qui envoie, comme avec un petit lance-pierre, vous voyez, avec un élastique. Et donc, c'est une arme de dame qui était mentionnée par les sources, donc qui intéressait ces collectionneurs. Ce genre d'armes, en France, on dit qu'elles sont françaises, en Italie, on dit qu'elles sont italiennes, dans les pays de l'Europe de l'Est ou du Nord, on dit qu'elles sont flamands ou allemands. Donc, vous voyez, on n'a pratiquement aucune idée de où est-ce qu'on fabriquait ces objets. Est-ce que tous ceux qu'on conserve sont vraiment authentiques ou combien y a-t-il de faux parmi ces objets qui étaient vraiment le genre d'objets qu'on aimait avoir? Voilà, autant de questions qui sont encore sans réponse. Pour dire un mot de cette question maintenant de l'imitation, du surmoulage, de l'assemblage, donc qui est vraiment centrale pour étudier les armes et qu'il faut toujours avoir comme une espèce de lumière rouge qui clignote dans un coin de son esprit quand on regarde ces objets. Pour vous montrer d'abord qu'elle est au cœur de la fabrication de ces objets, même quand ils sont parfaitement cohérents. Je vous montre ici un sabre fabriqué par Tilberg, qui est un armurier qui travaillait à Stockholm et qui a été offert à Napoléon. Donc c'est un objet, voilà, avec sa date, on connaît qui l'a fait exactement. Et vous voyez que ce sabre, avec cette garde en forme de tête de cheval, imite la garde d'un poignard moghol en pierre dure ou en orfèvrerie. Donc, c'est pas du tout normal pour une arme occidentale d'avoir cette forme de garde, même si le tout est orné de camées ou d'imitations de médailles ou de camées en métal, donc d'un goût néoclassique qui n'a rien à voir avec cet aspect oriental. Et la lame elle-même, malheureusement, vous ne voyez pas bien sur la photo, mais la lame, donc, qui est une lame moderne, fournie également par le même Tilberg, porte une inscription arabe qui dit Allah vienne au secours des musulmans, ou quelque chose comme ça, enfin, ou abatte les ennemis des musulmans, enfin, une chose qu'on trouve sur les armes orientales, donc une inscription qui a été imitée pour donner à cette arme une espèce de saveur orientale, alors qu'elle n'est pas un faux ou un pastiche, mais pour vous dire que comme les armes sont quelque chose où la question de la mode, les armes de luxe, est extrêmement sensible, donc cette question de faire référence, d'imiter, est très importante. L'autre chose, c'est de savoir comment les choses nous arrivent, c'est la question de l'assemblage. Alors, cette armure nous est arrivée par tout un périple. Puisqu'en fait, elle était sûrement en France au moment disons, de l'Empire. Vous imaginez, au moment de l'Empire, c'était la plus grande plaque tournante de l'art dans l'Europe et des armes en particulier. Elle est passée en Angleterre et puis elle a été rachetée par un marchand français qui l'a ramenée. Finalement, il n'a pas pu la vendre et c'est sa veuve qui finalement l'a donnée au Louvre presque 100 ans plus tard, comme étant l'armure d'Henri IV. Alors effectivement, c'est une armure qui a, elle, quelques petites fleurs de lys dans des parties un peu secondaires, qui en date peut être cohérente avec Henri IV, mais qui là encore ne correspond pas. On a conservé une armure certaine d'Henri IV qui a été offerte à la ville de Venise et qui se trouve à l'arsenal de Venise aujourd'hui. Pas à l'arsenal, pardon, au palais des Doges, mais à l'armurerie. Donc ça, elle ne correspond pas. Et en fait, on se rend compte que l'armet, donc le casque qui l'accompagne, qui est parfaitement cohérent du point de vue du style et avec les mêmes décors de victoire, etc., en fait, il a été ajouté en Angleterre au milieu du 19e siècle. Avant, elle n'en avait pas. Et elle a été considérée comme cohérente depuis, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait un autre casque à Florence qui était sûrement le vrai casque de cette armure. Donc on continue de la présenter comme ça, alors qu'en fait c'est une composition faite par un collectionneur anglais du 19e siècle. Alors, pour parler de cette histoire de surmoulage, de quoi s'agit-il? C'est un problème vraiment récurrent, extrêmement douloureux, j'ai envie de dire, pour qui s'occupe de bronze, parce qu'en fait, comme vous le savez, ce qui est en bronze est produit par moulage, ce qui fait qu'il y a déjà l'objet un original qui est sorti de la fabrique du fondeur n'est déjà que la copie d'une chose qui existe dans un autre matériau, soit en cire, soit en plâtre, soit en terre, duquel on a fait un moule, et dont on a tiré cet objet. Donc le bronze implique nécessairement un processus de reproduction. Alors, ce qui est la difficulté, qu'est-ce que c'est qu'un surmoulage? C'est qu'au lieu qu'on soit dans l'atelier A, qui a le modèle en plâtre qui fait un bronze, on est dans un atelier B ou X, qui a juste déjà l'objet manufacturé et qui l'utilise comme un modèle, qui le moule et qui en produit un deuxième. Alors, c'est évident que si l'objet manufacturé est de très bonne définition, c'est pratiquement impossible à déceler, puisque c'est produit dans les mêmes conditions techniques. Alors, il y a juste un retrait. À chaque fois qu'on fait ce processus de moulage et de tirage, il y a un retrait dimensionnel. Donc, quelquefois, je vais vous en montrer un cas, on peut arriver à débrouiller cette histoire si on a les éléments du puzzle. D'autres fois, c'est simplement par la mauvaise qualité. C'est le cas de ce corps de François Ier, qui était vraiment un objet extraordinairement admiré, qui a été dans une magnifique exposition organisée par Göring sur la chasse, où on a prêté avec enthousiasme pour promouvoir le tourisme cynégétique dans les colonies dans les années 30. Et en fait, c'est un surmoulage d'un objet qui existe par ailleurs. Alors évidemment, on retombe dans notre histoire des assemblages, c'est-à-dire, par exemple, cette magnifique épée dont la lame est incontestablement italienne de la fin du XVe siècle. Ce sont des lames, vous voyez, très très larges et qui ont cette espèce de cannelure, qui sont des armes d'apparat qu'on connaît plutôt sous cette forme petite, qui sont plus grandes qu'un poignard, mais comme une espèce de petit glaive, et qu'on appelle cinque dea. Pour une raison qu'on explique mal, ça voudrait dire cinq doigts, comme cinq doigts de large. Bon, je vous le livre, c'est assez obscur. C'est une mode, donc ça existe pendant quelques dizaines d'années. Ces cinque dea sont des armes d'apparat, des armes de luxe avec des lames avec un décor gravé, doré. Donc cette lame, qui est exceptionnelle par sa taille, s'inscrit parfaitement dans ce corpus. Par contre, évidemment, la garde, quand j'ai étudié cet objet, elle me fait très très mauvaise impression. Et puis finalement, j'ai renoncé à penser qu'elle était mauvaise, faute d'arguments, parce qu'elle est absolument cohérente avec la lame d'un point de vue stylistique. Et ça, c'est quand même assez improbable qu'on ait associé, par un hasard extraordinaire, une garde surmoulée, un peu au hasard, enfin disons génériquement, sur une lame qui lui corresponde exactement. Je vous montre un autre exemple là d'assemblage où là il y a une fausse lame ancienne avec, vous voyez, les quillons aussi qui sont faux, sur lequel on a monté cette garde qui est surmoulée. Vous voyez que l'objet, même sans être spécialiste, affiche son caractère composite et invraisemblable. Et cette question des pommeaux est vraiment très presque un sujet en soi, puisque les sculpteurs qui produisaient des plaquettes, des médailles, fabriquaient aussi des modèles de pommeaux. Donc vous voyez, là on ouvre un peu une chose un peu vertigineuse, c'est-à-dire où est-ce qu'on est dans le processus de la fabrication de ces armes. Donc mettons, notre Negroli vend aussi des épées, on sait qu'ils n'en fabriquent pas eux-mêmes, donc c'est peut-être quelqu'un à Brescia qui fait des épées pour eux, mais qui est-ce qui fait les montures? Et après, qui est-ce qui a dessiné ces montures, ou qui est-ce qui a fait les cires des modèles de ces montures? Donc, évidemment, tout ça donne une espèce d'épaisseur dans laquelle la question de l'authenticité, de la date, du style, du lieu de fabrication se trouve complètement diluée extrêmement rapidement. Et on conserve, ça c'est juste dans la collection du Louvre, une quantité à la fois de pommeaux démontés, de plaquettes pommeaux qui n'ont jamais été montées, puisqu'il n'y a pas de vis ni rien du tout, et de tirages de ces modèles, comme cette plaquette, qui ne sont pas des éléments d'épée, mais qui sont simplement le modèle qu'on peut intégrer à la fabrication d'une épée, soit en le moulant, soit en l'intégrant en tant qu'objet. Donc vous voyez la difficulté de ces problèmes. Alors, voilà, pour résumer un petit peu cette question autour de cet objet, qui est un sabre italien, probablement d'Italie du Nord du XVIe siècle, que j'ai d'abord considéré en ricanant, évidemment, quand dans la réserve. C'est vraiment typiquement le genre d'objet, on se dit, oh là là. Et puis finalement, en travaillant sur cet objet, je me suis dit, il doit y en avoir 43 de cette, parce que je connaissais ce motif là, de ces deux têtes affrontées. Et il y a un médaillon ici, en plus, dont on connaît l'origine, dont on connaît qui est une petite plaquette qu'on attribue à un artiste et qu'on connaît sous d'autres formes. Donc vous voyez, on est dans la situation que je viens de décrire. Et en fait, non, on ne connaît que quatre épées ou sabres avec cette garde. Mais comme le nôtre vient de la collection de Sauvageau, c'est-à-dire d'une collection où il y avait une période où il y a déjà des faux, il n'était pas très bien placé dans la hiérarchie de ces exemplaires, en sachant qu'il y en a un à Vienne et un à Florence, donc celui de Florence étant publié comme le chef-d'œuvre tous les livres d'armes. Voilà. Et puis en fait, celui de Vienne vient de la collection d'un collectionneur de la fin du 19e, qui est vraiment tout sauf recommandable, et en fait, c'est un surmoulage très grossier, donc là, il a été éliminé tout de suite. Et celui de Florence est exactement identique au nôtre. Alors, j'ai appliqué cette méthode des micros, enfin des mesures en dessous du millimètre, si vous voulez, jusqu'au dixième, ou enfin demi-dixième, ou vingtième de millimètre. Et quand on a un surmoulage, on arrive à le repérer comme ça. Et en fait, l'épée du Bargello de Florence est un surmoulage de la nôtre. Et ça, c'est absolument certain par ce constat vraiment de mesure, parce qu'il n'est pas possible de faire d'augmenter les dimensions par ce processus. Et en fait, ça s'explique même historiquement, puisque ça vient de la collection au Bargello, de la collection Caran, qui sont des marchands collectionneurs lyonnais qui ont acheté beaucoup de choses à Paris dans les mêmes années que Sauvageau. Et en fait, ils ont acheté à Drouot cette épée quelques années après celle de Sauvageau. Et Sauvageau l'a acheté chez un marchand d'un brocanteur qui vendait beaucoup de choses de ferraille et dont l'affaire a été liquidée parce qu'il est devenu fou, il a été interné. Donc c'est assez drôle. Et acheté quelques années avant celle de la collection 40. Donc voilà le problème, ça veut dire que cet objet-là était à Paris. On en a sûrement fait des surmoulages à Paris, dont celui qui a été vendu à 40 qui est à Florence aujourd'hui. Et je ne suis même pas sûr que celui-là soit le premier. Puis si on a fait celui du Bargello, ça veut dire que voilà, le problème existe et que quelqu'un avait peut-être eu l'idée. Donc, vous voyez, cette combinaison à la fois d'observation technique, de sources archivistiques au sens le plus large, et d'analyse stylistique qui fait que, voilà, on résout des problèmes et on s'en crée d'autres presque infiniment. Donc, je passe là-dessus. Je vais terminer simplement par ces deux choses. J'ai évoqué le baron Salomon et les marchands peut-être peu scrupuleux avec qui il avait affaire. Un de ces intermédiaires était le baron de Montville, qui était aussi collectionneur. Donc, baron de Montville, vous imaginez, aucun problème. Et ce baron de Montville avait aidé les Zuloaga, qui étaient les conservateurs restaurateurs de l'armurerie royale de Madrid, a écoulé à Londres puis à Paris, grâce à Christie's, les armes qui étaient volées par ces mêmes Zuloaga dans l'armurerie royale de Madrid. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Dont certaines pièces rentrent dans la collection de Montville et après dans la collection du baron Salomon, évidemment. Je vais vous la montrer dans une seconde. Et j'ai retrouvé des factures dans les papiers des Rothschild de Zuloaga. Et Zuloaga vend au baron pour une somme, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 20 000 francs, enfin une somme absolument énorme à l'époque, cette grande rondache pour laquelle j'ai le reçu, que je n'ai même pas restaurée, qui est en parfait état, etc. Cette rondache est une copie d'une rondache de l'armurerie de Madrid, dont ils avaient fait des moulages en plâtre. Donc, Zuloaga, ça c'est déjà le fils du conservateur de l'époque, le conservateur restaurateur. Il avait les plâtres, il faisait des copies, et à un gogo comme le baron Salomon, on avait vendu ça. Et de Beaumont, qui était un très grand collectionneur d'armes, très grand connaisseur, qui a donné sa collection au musée de Cluny, le dit entre les lignes, une fois qu'on sait cette histoire, il dit, c'est pas comme cette fausse rondache achetée 10 000 francs par un grand collectionneur parisien, etc. Donc à l'époque même, on savait cette histoire, Les gens du Louvre ne le savaient pas, en tout cas, puisque quand la veuve du baron Salomon a donné sa collection, parmi les armes, parmi les objets qu'on a prélevés, on a prélevé cette fameuse rondage qu'en fait on peut vraiment attribuer en quasi-certitude à Eusebio Zuloaga. Et en plus, ces Zuloaga, c'est eux qui ont réimplanté l'industrie de la damasquinure à Tolède. Quand vous allez à Tolède aujourd'hui, il y a tous ces magasins qui vendent des machins en damasquinure. C'est eux qui ont relancé toutes ces productions néo-renaissantes de boîtes, de broches, de bijoux et de fabrication de faux. Donc, voilà pour le baron Salomon. Et je voudrais finir juste en évoquant donc le centre principal de production de ces armes de luxe en repoussé et damasquiné de la Renaissance, c'est-à-dire Milan, avec cette grande rondache du Laocoon, vous voyez, avec qui vient sûrement elle aussi en fait de butin d'un général, d'un maréchal d'empire passé par sa veuve, etc., et arrivé au musée du Louvre, avec, vous voyez, ce mélange d'argent, de métal bruni ou bleui. Donc, qui est l'acier, et d'or, donc avec, extrêmement riche en or. Je vous ai montré un bout du revers. Vous imaginez le travail du repoussé dans l'acier pour obtenir ce genre de résultat. Avec, donc, on a une très belle série de ces rondages, dont certaines sont déposées à Écouen, au Musée national de la Renaissance. Ici, une production beaucoup plus générique, beaucoup plus ordinaire que cette rondage du Laocoon. Ici encore un autre exemple avec une grande scène d'histoire sûrement tirée d'une gravure qui n'est pas identifiée. Donc là, vous voyez encore le problème de qui donne le dessin et les modèles aux armuriers. Et on a retrouvé un casque assorti qui se trouve à la Wallace Collection. Donc cette rondache qui a peut-être été achetée sur le marché parisien par le collectionneur qui nous l'a laissé, et la rondache achetée par Neufker qui s'est retrouvée, le casque acheté par Neufker qui est à Londres aujourd'hui. Mais il n'y a plus que le revers, mais ça fait rien, de cette fameuse cuirasse, c'est curieux, de cette fameuse cuirasse achetée par le baron Salomon au baron de Montville, dont je soupçonne qu'elle vient de la collection royale à Madrid, parce qu'il y a toute une série de ces cuirasses milanaises extrêmement proches, et qui nous renvoie, encore une fois, à ce problème de imiter, suivre la mode, etc., puisqu'en fait, c'est un, il faudrait que vous me croyez sur parole, c'est en fait une reprise d'une célèbre armure faite pour un Farnèse par Piccinino, qui est le plus grand, avec les Negroli, grand, plus célèbre fabricant d'armes de luxe à Milan, vous voyez, avec ce décor de bande qui imite d'ailleurs un costume en étoffe. Donc il y a un jeu aussi entre l'armure et le tissu qui est très important au XVIe siècle, avec ces bandes qui alternent des guirlandes et des grands personnages dans des médaillons. Et la Wallace a une autre armure inachevée dans le style de Piccinino, donc qui montre que ces créations très exclusives, sur mesure, modèle unique, etc., étaient immédiatement copiées, peut-être de l'autre côté de la rue, pour une chose de tout venant. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est de l'autre côté de la rue, ou est-ce que c'est à Madrid, où on sait qu'il y avait des armuriers milanais qui travaillaient? Et ça, cette question de ces ateliers de espagnols, on ne connaît absolument rien, sûrement produit en Espagne, alors qu'on a une masse d'archives qui montrent qu'on a fabriqué des armes, et les mêmes Milanais fabriquaient des armes. Donc ce genre de cabassé, par exemple, c'est un casque de fantassin, on dit Milanais, mais est-ce que c'est Milanais ou un autre centre dans lequel travaillent des Milanais? Voilà. Alors c'est le genre de problème qu'on essaye d'aborder avec ces histoires de masse d'armes, hein, peut-être produit en quantité en Italie du Nord, peut-être imité aussi en Allemagne, peut-être falsifié ou copié en Europe pour les collectionneurs au XIXe siècle. Et enfin, juste pour terminer cet exposé, l'évocation aussi d'une autre donnée, c'est-à-dire si on identifie une production comme, admettons, relevant du Milanais. Donc Milanais, c'est l'Espagne au XVIIe siècle. Et on voit déjà qu'il y a ce problème de polarité, hein, entre de déplacement. Et en fait, il y a tout un type d'armes du monde hispanique, au sens le plus large, avec ce décor repercé, vous voyez, parfois très élégant, dans des formes très simples. Ça, c'est une dague de ce qu'on appelle une dague de main gauche. Donc, ça correspond à... Pardon, il y a une autre photo qui... C'est drôle, elle est là, mais elle ne s'affiche pas. Qui correspond à une manière de pratiquer l'escrime élaborée à la fin du XVIe siècle, avec une rapière, donc cette épée très flexible, qui est un fleuret, si vous voulez, et dans la main gauche, cette autre dague, vous avez vu ça sûrement dans les films de cap et d'épée. Et ces rapières en forme de tasse, là, et ces dagues de main gauche, avec cette protection de la main triangulaire et ce décor repercé, sont typiques du monde espagnol. Mais alors, où, c'est-à-dire, est-ce que c'est Milan ou Naples ou la Sicile, parce que tout ça, politiquement, c'est la même chose, et on a quelques armes documentées dans chacun de ces centres qui ne permettent même pas de dessiner une typologie, et évidemment, l'Espagne, Séville, Madrid ou d'autres centres. Et là, il est évident que la question de la provenance ne peut pas résoudre cette question, puisque toutes ces armes ont été vendues loin de leur lieu de production. La question de la typologie ne peut pas résoudre cette question, puisque même les lames sont parfois signées, mais on a pu monter des lames, vous voyez, importer des très bonnes lames de Tolède et les monter à Milan, etc. C'est ce que j'ai décrit plus haut. Donc il n'y aurait que peut-être une réponse qui viendrait du métal, dans ce cas-là, qui permettrait de comprendre les processus très complexes qui gouverne la fabrication de ces productions. Voilà, merci.
Merci à vous.